Chapitre 3. Les bateaux de pêche commençaient à revenir près du quai, survolés par des centaines d'oiseaux. Chaque maître de barge, à l'arrière de son embarcation, criait ses directives à son partenaire. C'était un ballet soigneusement planifié, et tous connaissaient l'endroit où jeter leur ancre avant de sortir les morues pêchées. À l'extrémité de la plage de Galet, Grégoire Filion, le maître de grave de la compagnie Robin, s'assurait de coordonner les différentes tâches des terriens et se promenait de long en large en attendant ses pêcheurs. Les femmes et les enfants du village jasaient entre eux, tout en vérifiant la solidité des vigneaux et l'état des poissons qui y séchaient déjà. Madeleine restait dans son coin, en évitant les regards des villageois. Certains avaient tenté de faire preuve de compassion les premiers jours suivant les funérailles des lois. « La tempête va passer, la petite », avait rassuré une vieille connaissance. « Un jour, ce sera plus facile », avait tenté l'un d'eux. « Prends soin de toi », avait lancé un autre. Mais Madeleine n'avait pas daigné répondre, se contentant de hocher sa tête brune. Après quelques jours, les gens l'avaient ignorée à leur tour. Si elle ne voulait pas s'aider, tant pis pour elle, avaient pensé la plupart des villageois. On n'était quand même pas pour se mettre à genoux devant elle. C'était toujours bien de sa faute si le petit Éloi avait disparu. Tom avait déplacé sa table et ses outils à l'autre bout de la plage, juste avant les installations de la compagnie Robin. « Pas question qu'on travaille côte à côte avec la femme responsable de notre malheur », avait-il craché à Simone, qui approuvait ce changement. La date de l'accouchement de Madeleine approchait à grands pas, et sans le dire à voix haute, elle jubilait à l'idée de ne plus avoir à être mêlée aux habitants du village. Lorsque son enfant naîtrait, elle se ferait un plaisir de rester dans sa grande maison bleue pour quelques semaines au moins. « On va bientôt lui voir la binette à ce bébé-là. J'ai hâte », lui avait dit Freddy la veille avant de se coucher. « Moi aussi », avait eu envie de hurler Madeleine. Elle était terrifiée à l'idée que Dieu la punisse d'avoir causé la mort de son neveu. Et si son bébé souffrait d'une malformation? S'il avait l'allure de Mathias, l'idiot du village? S'il avait une tache au visage parce qu'elle avait mangé des raisins l'avant-veille et touché par la suite sa propre joue sans réfléchir? En braquant ses yeux sur la barge de Tom et Freddy, qui s'approchaient du rivage, la jeune femme se secoua pour chasser ses idées sombres. Après sa visite ratée au magasin général, quelques jours plus tôt, Madeleine aurait préféré rester chez elle au lieu de venir aider son mari. Mais elle n'avait pas envie qu'on plaigne encore plus son époux qui se retrouverait à tout faire seul. Comme pour lui rappeler de se mouvoir, un coup de pied puissant dans son ventre la fit grimacer. « Oui, je me lève », chuchota-t-elle en posant sa main au niveau de ses reins. Elle s'appuya contre le gros tronc d'arbre qui lui servait de banc et s'avança vers la mer. Son mari et son beau-frère accostèrent au quai avec leur chargement. Depuis toujours, la famille Girard était indépendante de la compagnie Robin. Propriétaire de quelques terres autour de l'Anse-à-la-Joie, le père des jumelles avait été l'un des pêcheurs propriétaires n'ayant pas eu à se soumettre aux contraintes de la compagnie locale. Tom et Freddy possédaient donc la totalité de leurs moyens de travail. Agrès, installation de transformation de la morue, bateau. Plusieurs hommes au village ne se gênaient d'ailleurs pas pour dire qu'ils s'étaient bien mariés. Le père de Tom s'avança près de la femme enceinte et la salua d'un mouvement sec de la tête. « C'est pour bientôt », dit-il en pointant le ventre de Madeleine. « Moins d'un mois », murmura la femme, les yeux fixés sur une chaloupe qui s'approchait de la rive. Horace, un homme corpulent de 65 ans, ne renchérit pas, ce qui fit l'affaire de Madeleine. De toute manière, autour d'eux, les villageois commençaient à s'exclamer en riant. Au loin, les bateaux de la compagnie jetaient l'ancre près de la rive, et les terriens patientaient en jasant entre eux. Il s'agissait pour la plupart de travailleurs venus de l'extérieur du village qui se mêlaient peu aux autres habitants. Au moment où elle s'apprêtait à s'avancer à son tour vers le quai, Madeleine poussa un cri. « Ouch! Ça va? » demanda Horace en se retournant vers elle. « Oui, ouch! Aïe aïe! » Madeleine, la main sous le ventre, se pencha vers l'avant. Le va-et-vient des pêcheurs, des familles et des autres travailleurs fit que personne d'autre ne remarqua le masque de douleur qui était apparu sur le visage ovale. « Je pense, ouf, que je vais retourner m'asseoir. » murmura la jeune femme. « Faudrait peut-être que tu te reposes », marmonna Horace en songeant que Simone pourrait venir l'aider si sa jumelle restait chez elle. L'homme n'arrivait pas à détester la sœur de sa bru, même si son fils avait insisté dès le lendemain des funérailles des lois pour qu'il n'y ait plus d'interaction avec elle. « Papa, je veux plus que tu lui parles. Fais comme si cette femme-là n'existait pas. Elle fait plus partie de nos vies. » Mais Horace, malgré la colère qui l'avait lui aussi envahi, plaignait Madeleine. Il savait à quel point cette femme avait aimé Éloi. Toutefois, il évitait de s'attarder trop près d'elle pour ne pas peiner son fils. Madeleine fit un signe de la main à Freddy, qui s'avançait sur le quai en frottant ses mains sales sur sa salopette. Reculée jusqu'au fond de la plage, la femme tenta de le rassurer, mais son visage crispé témoignait de son malaise. L'homme de 26 ans, sa chevelure brune courte toute ébouriffée après une journée sur l'eau, s'empressa donc auprès d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Maddie? » s'informa-t-il en descendant les bretelles de son pantalon. « Je sais pas trop, j'ai des crampes. » Freddy jeta un regard sur le tissu de la robe beige tendue par le gros ventre. Son visage rond, aux traits encore poupins, se figea avec inquiétude. « C'est le bébé qui arrive, ça se peut pas, on n'est pas le 15 août. »« Non, non, » souffla Madeleine, « c'est juste une fausse alerte. »« Ah, oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Madeleine haussa ses épaules. Son mari était penché sur elle, les deux mains appuyées sur ses cuisses. Encore une fois, la jeune femme constata qu'elle n'avait pas épousé l'homme ayant le plus d'initiative. Elle le rassura donc en tentant un faible sourire. « Rien, rien. » Mais je pense que je vais remonter à la maison. Madeleine pouvait lire sur les traits de Freddy les hésitations qui lui passaient par la tête. Devait-il insister pour l'accompagner? Ne serait-il pas mieux qu'elle reste assise? Que ferait-il de ses morues? La femme se redressa lentement. Les douleurs semblaient se dissiper. Elle repoussa sa longue tresse derrière son dos et se remit debout avec soulagement. Ça va. Je suis correcte, murmura-t-elle. « Tant mieux. » Freddy sourit avec satisfaction. Sa femme lui jeta un regard rapide. Comment réussirait-il à supporter le moment de l'accouchement s'il devenait aussi désemparé face à une crampe? Pensa furtivement Madeleine. Mais comme à son habitude, elle calma les craintes de son mari en oubliant les siennes. « Bon, c'est pas assez. Alors, vous avez eu une bonne pêche? » Deux heures plus tard, assis sur son balcon, le couple se mit à discuter des prochaines semaines. Madeleine enleva ses chaussures avec soulagement et leva ses jambes pour les poser sur une chaise de bois devant elle. La nuit commençait à tomber et elle appréciait la douceur de cette soirée d'été. « Oh, que ça fait du bien !» murmura-t-elle en laissant aller sa tête sur le dossier de sa chaise. Elle ferma les yeux un moment. Et seul le son de leurs deux berçantes qui faisaient craquer le bois du plancher extérieur les accompagna dans leurs réflexions. Palmyre était déjà au lit, la vieille femme s'étant levée à l'aurore, comme cela lui arrivait parfois. Elle partageait alors le déjeuner de Freddy, mais l'encourageait à bien se vêtir, même si l'homme avait 26 ans. « À partir de demain, tu vas rester ici », déclara Freddy à son épouse, au bout d'un long moment de silence. « Ben non, voyons. T'as besoin d'aide. Les petits gingras sont pas bien vieux pour tout faire. En plus, c'est le temps des récoltes. Ils viennent une journée sur deux. » Freddy approuva d'un hochement de tête, l'air soucieux. Depuis la fin de l'école, Florian, 10 ans, et son frère Réginald, 11 ans, assistaient Madeleine sur la grave. Mais si les deux enfants d'un cousin éloigné étaient bien vaillants, ils devaient aussi travailler au champ avec leur père. Freddy se pencha vers l'avant pour lancer son mégot en bas du balcon. Il expliqua sa solution à son épouse préoccupée. « J'ai décidé d'engager quelqu'un. Je vais payer le fils Pelletier pour m'assister. De toute manière, après l'arrivée du bébé, il va me falloir quelqu'un pour te remplacer jusqu'à la fin de l'automne. Je lui ai déjà parlé. Aussi bien le faire commencer tout de suite. » « Conrad Pelletier? Non, non, l'autre. Émile. » Madeleine chercha dans sa mémoire, mais elle n'arrivait pas à replacer cet homme. Il faut dire que la famille Pelletier, après des années à tirer le diable par la queue à cause du père, un alcoolique notoire, avait déménagé dans les environs de Gaspé 7 ans plus tôt. « Il a quel âge, ce jeune-là? » s'informa la femme. « 20 ans, je pense. »« Ah bon? Et il travaille pas? » D'après ce que j'ai compris, il était parti étudier à Québec, mais il s'ennuyait trop de la mer. Ça fait qu'il est revenu. Madeleine posa son regard sérieux sur son époux. Il allumait sa troisième cigarette depuis la fin du repas. Après leur mariage, elle avait réalisé à quel point Freddy appréciait boire et fumer, en plus d'aimer les beaux vêtements. S'il n'était jamais tombé dans l'exagération, il n'en demeurait pas moins qu'il lui était difficile de se limiter. Pour tout. Elle espérait que les quelques verres de bagos qu'il avait coutume d'ingurgiter dans les soirées du temps des fêtes et lors des soupers d'anniversaire ne deviendraient pas habituels, surtout s'il se mettait à côtoyer le fils d'un ivrogne. Mais pour le moment, un autre sujet la tracassait bien plus que les abus possibles de Freddy. Elle cessa de se balancer et observa son époux, avant de le questionner. « Émile, il a encore de la famille ici au village? » « Non. Pourquoi? Il va dormir où? » Une légère inquiétude venait de s'installer dans la tête de Madeleine. En constatant les gigotements de son mari qui avait cessé de se bercer, elle comprit que ses soupçons étaient fondés. « Bien, j'ai pensé lui offrir la chambre sous l'escalier. »« La chambre? Celle près de Palmyre. J'avais compris. On n'en a pas d'autre. » Madeleine sentit sa gorge se serrer. Elle se racla la gorge et marmonna « Mais on devait s'en servir pour les enfants. » Freddy cracha un bout de tabac sur le sol et regarda sa femme avec agacement. « Toujours pas pour l'engager et le laisser dormir dans la cabane sur la grave. C'est pas ce que je dis. » murmura Madeleine. « De toute manière, pour l'instant, on va avoir un bébé. T'attends pas les jumelles Dionne quand même? La bassinette du petit est dans notre chambre, il va pas s'installer en bas avant longtemps. C'est ça que tu m'as dit, en tout cas. » Madeleine savait que sa réaction était égoïste. Pourtant, elle ne put s'empêcher de continuer. « C'est juste que d'avoir un étranger chez nous en plus d'un bébé, je trouve pas ça évident. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nadie? Je peux pas tout faire seule. Simone et Tom nous aideront plus jamais, tu le sais. Arrête! » À la mention du prénom de sa sœur, Madeleine sentit les larmes lui monter aux yeux. Ses joues rougirent sous l'effort qu'elle fit pour éviter qu'elle ne roule sur son visage. Le manque de sa jumelle lui faisait parfois si mal qu'elle avait l'impression de perdre le souffle. Freddy se pencha pour déposer sa main sur la jambe de sa femme et marmonna « Excuse-moi, mais c'est vrai quand même. Je le sais. » souffla Madeleine. « C'est juste que ça va faire étrange d'avoir quelqu'un d'inconnu chez nous. Mais c'est certain que je comprends. Bon, alors c'est parfait. Je vais lui demander de commencer le plus vite possible, peut-être même après-demain, si je réussis à le rejoindre. Tu pourras arranger la chambre, hein? » Madeleine hocha la tête sans répondre. Elle n'aimait pas l'idée d'avoir à partager son intimité avec un étranger, même si elle savait que son mari avait raison. « J'espère qu'il sait vivre, ce jeune-là, et qu'il va pas nous causer de troubles. Avec un père sous long, il a sûrement des dispositions. » Dès le surlendemain, Émile Pelletier se présenta donc au village de Lens-à-la-Joie, avec son petit bagage. Les gens qui connaissaient sa famille le reçurent avec bonhomie. Après tout, le père avait passé bien du temps à l'auberge, aux pirates à Percé, lorsque sa famille habitait dans le coin, à faire rire les villageois. Le bonhomme Pelletier était de ces hommes qui avaient le vin joyeux. Tous observèrent donc avec intérêt le nouvel arrivant lorsqu'il pénétra dans le magasin général, surtout la jeune Rosalie Taillefer, qui délaissa quelques instants la mise en place de nouveaux produits féminins dans les étagères derrière elle pour scruter le jeune homme. « Tiens, tiens, qu'est-ce que le bon vent nous amène? » s'exclama son père Gaston en essuyant ses mains sur son tablier blanc. Le marchand, un homme à la calvitie naissante, sortit de l'arrière de son comptoir pour venir saluer Émile. « Fait longtemps qu'on n'a pas vu un Pelletier par ici. Ton père est avec toi, jeune? T'es lequel des trois gars de Lazare? » « Émile. » « Puis non, je suis venu seul. » Le jeune homme avait beau n'avoir que 20 ans, il avait une carrure à faire donner les autres villageois. Il mesurait plus de 6 pieds et devait bien peser près de 200 livres. Il n'était pas gros, mais costaud. Ses cheveux courts et drus avaient la même blondeur que ceux de la petite Philomène, ce qui était étonnant chez un homme de cet âge. Deux clientes dans la vingtaine le fixaient d'ailleurs avec avidité, en rigolant derrière leurs poings fermés. Les oreilles de tous se dressèrent lorsqu'il annonça venir travailler pour Freddy Poirier. Aussitôt, un malaise se fit sentir dans le magasin et une femme, plus directe que les autres, marmonna ironiquement « Une chance que t'es célibataire sans enfant. » Émile fronça ses épais sourcils en pointant la boîte de tabac derrière la caisse enregistreuse. Tout en sortant son portefeuille de son pantalon usé, il attendit des explications. Mais Gaston Taillefer apostropha la cliente en se retournant ensuite vers le jeune homme, qui le questionnait du regard. « Laisse faire ça. Des commérages de bonne femme. Ça fait 35 scènes. Comme ça, tu reviens t'installer par ici. »« Ouais. Puis, je suis bien content. La grande ville, c'est pas pour moi. J'ai toujours voulu devenir pêcheur. »
Rosalie, qui s'était appuyée sur le comptoir devant elle, grimaça quand son père lui fit un signe de main autoritaire. Elle prit la boîte de rouge à lèvres et continua son travail distraitement, non sans ouvrir ses oreilles bien grandes. Il est pas aussi beau que Freddy Poirier, mais il est pas marié, au moins, songea la jeune de 18 ans. Après quelques minutes à converser avec le marchand, Émile empoigna sa vieille valise de cuir brun et sortit en se dirigeant vers Laurent Soriol. Il se demandait bien pourquoi les gens avaient montré une certaine réticence au fait de le voir s'établir chez Freddy et Madeleine Poirier. Il manquerait plus juste que cette femme-là soit désagréable.